France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Comme moi, vous vivrez plusieurs existences, passionnantes et compliquées, pathétiques et cocasses. Mais ne l'oubliez pas, c'est quand le rideau se lève que votre vie commence. Il ne tient qu'à vous qu'elle continue le rideau une fois baissé. Pour cela, il suffit, après avoir cru en vos personnages, de croire un peu en vous.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Ce matin, nous allons parler, comme vous l'avez deviné en écoutant notre générique, puisque cette voix fut sans pareille, nous allons parler de Louis Jouvet. Lorsqu'il est mort en août 1951, à l'âge de 64 ans, la France entière en ressentit de la peine et la manifesta de toutes les façons possibles. La presse du temps, écrite ou parlée, emporte les témoignages multiformes. Il arrive ainsi qu'un comédien ou une comédienne aux diverses époques en vienne à incarner aux yeux du public, quelle que soit la spécificité de son talent, une sensibilité collective. Non sans refléter d'ailleurs souvent, autant que les consensus, les tensions nationales, parfois les contradictions qui ont surgi alors. Cela fut spécialement clair dans le cas de Jouvet pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de son exil en tournée avec sa troupe dans les Amériques, où il put apparaître successivement comme un instrument de la propagande de Vichy, puis, selon un glissement progressif, comme l'incarnation d'une fierté française retrouvée, celle de la France libre. Il faut dire qu'il avait acquis auparavant une célébrité exceptionnelle au théâtre, non seulement comme comédien et comme metteur en scène, mais comme professeur au conservatoire et comme patron d'une salle parisienne prestigieuse. Il faut dire aussi qu'il avait marqué le cinéma de sa présence exceptionnelle dans plusieurs films fameux, et pas seulement drôles de drame, Hôtel du Nord ou Quai des Orfèvres. Il va donc nous falloir éclairer cette alchimie mystérieuse où se rencontrent un homme, un pays et une époque. Nous allons le faire avec Olivier Rony, je l'avais convié récemment à nous parler de Jules Romain, qui fut l'ami et le complice de Jouvet. Il nous a donné une biographie de l'un comme de l'autre. Nous allons l'entendre à nouveau, fort d'une science qu'il aime à partager, et vous allez le constater. Et d'abord la voix de Louis Jouvet, bien sûr. C'est un extrait d'Entrée des artistes, où Jouvet, incarnant le professeur au conservatoire, vient voir la famille d'une jeune fille qui veut contrarier la vocation de celle-ci. Ce sont des blanchisseurs. Écoutons.
Madame Grenaison, je suis Monsieur Lambertin.
Monsieur Grenaison, mon mari, l'oncle de la petite.
J'aurais tout de suite reconnu Monsieur Grenaison.
Vraiment?
Vous ressemblez furieusement à votre écriture.
Vous allez bien prendre une tasse de café avec nous?
Mais certainement, asseyez-vous, monsieur.
Ai-je l'air d'un excentrique, d'un dément ou d'un hors-la-loi?
Certainement pas.
Je suis officier de la Légion d'honneur.
Je l'ai vu tout de suite, mon commandant.
Je ne suis pas commandant, je professe au conservatoire et c'est à ce titre qu'on m'a décoré. Je n'en tire pas de vanité. Parce qu'aux yeux de certaines personnes, merci, cet accessoire vestimentaire confère à qui le porte un certain prestige.
Certainement.
Cet attribut me donne le privilège d'être écouté respectueusement par les imbéciles. Les autres ne me prêtent quelque attention qu'à cause de mon talent, de ma carrière ou de mon passé. Votre nièce est mon élève.
Non, c'est trop d'honneur.
Laisse parler le commandant.
Je ne suis pas commandant. Les parents sont bien coupables qui ne respectent pas les cheveux blonds ou bruns de la jeunesse. Cet enfant est un sujet de premier ordre. Et vous n'avez pas le droit de lui gâcher la vie sous le prétexte assez vain que vous lui tenez lieu de mère en qualité de tante. C'est une amoureuse.
Comment ?
Je parle de son emploi.
Amoureuse, c'est pas un métier, ça.
Je ne doute pas de sa vertu. C'est une Réjeanne, si vous préférez. Je parle du genre de rôle qu'elle interprétera. Oh,
si c'est une Réjeanne, alors, certainement.
Et croyez-vous qu'elle gagnera de l'argent ?
Elle arrivera, et c'est à vous qu'elle le devra. Croyez-moi, vous ferez une bonne et noble action.
Qu'en penses-tu, Fernand ?
Moi, ça ne me plaît pas beaucoup, mais... Puisque monsieur nous assure que la petite...
Ah, enfin, c'est pas...
Évidemment. Silence, la boutique !
Voilà, enchanté de vous avoir connu. Tout est arrangé ? Bravo, vous êtes de braves gens. Quand je pense qu'elle aurait vécu dans cette atmosphère, blanchisseuse. On n'a jamais vu des enfants qui voulaient devenir blanchisseurs contrecarrés par leurs parents.
Ben, c'est que c'est un métier.
Laver en famille le linge sale des autres, vous appelez ça un métier ?
Ignoble.
Tandis que comédien, ce n'est pas une profession, n'est-ce pas ?
Pas une profession, crétin. Pas une profession, idiot.
Excusez-moi de vous parler ainsi, mais vous me rappelez mon imbécile de père. Quelle atmosphère. C'est à vous dégoûter de vous faire blanchir.
Non, mais qu'est-ce qui vous prend ? Voilà les façons. Eh bien, vous ne remettrez plus jamais les pieds ici, plus jamais.
J'ai aucune raison de remettre les pieds chez vous maintenant que j'ai tout arrangé.
Bon.
Ah non, non,
non. Olivier Rony, bonjour.
Bonjour.
J'ai cru nécessaire, indispensable, de faire entendre d'entrée de jeu la voix de Jouvet. C'est un extrait donc de L'Entrée des artistes, le film de Marc Allégret qui remonte à 1938. Il évoque Réjeanne. Rappelez-nous qui était Réjeanne. Ah. C'est une actrice de la génération de Sarah Bernhardt.
C'est exactement, c'est même la rivale de Sarah Bernhardt, avec évidemment des rôles de grandes amoureuses. Elle a notamment joué la Parisienne de Beck. Elle était effectivement une figure essentielle du théâtre de la Belle Époque.
Alors nous allons voir comment cette vocation est née chez ce jeune garçon qui a dit à un moment donné « Mes pieds sur les planches, c'était une tentation plus forte encore que les mains d'un adolescent sur un corps de femme ».
Oui, il y a une véritable tentation érotique, je dirais, pour Jouvet sur le théâtre. D'autant plus qu'il a été contrarié, lui aussi, comme le personnage de cette jeune femme. On ne voulait pas qu'il fasse du théâtre dans sa jeunesse.
Mon imbécile de père, dit le personnage.
Alors, ça, c'est pas vrai, parce que son père est mort quand il était tout jeune.
Racontez-nous le creuset où a été formée cette personnalité.
Il est né en Bretagne, à Crozon, en 1887, d'un père qui était directeur de travaux. C'était un maître d'œuvre, si vous voulez, et il allait de ville en ville pour diriger des chantiers de construction. Et il se trouve qu'il est né en Bretagne. Ses parents étaient de... Sa mère était de Rethel.
Rethel, dans les Ardennes.
Dans les Ardennes. Et c'est là, après la mort de son père, qu'il sera élevé, dans des collèges religieux, dans une famille de pharmaciens et de médecins. Et il n'était pas question pour cette famille de le voir embrasser la carrière de comédien.
Il a écrit que c'était un ignoble trou, pardonnez Absolument. L'expression... que l'on appelle Rethel. Effectivement, c'est un pharmacien d'abord.
Il a d'abord fait des études de pharmacie en suivant la trace de son oncle qui était pharmacien. Et il a été jusqu'au bout d'ailleurs. Il a fait des études de pharmacie. Ce dernier diplôme de pharmacien, ses derniers certificats de pharmacien, il les a passés l'année même où il est entré au Vieux-Colombier en 1913. Il a poursuivi ses études jusqu'au bout. Et bien entendu, en faisant parallèlement le théâtre, comme nous le savons.
D'ailleurs, il en parle plusieurs fois de ce métier de pharmacien. Je ne sais pas s'il éprouve un lien entre celui-ci et sa vocation théâtrale. Il écrit « Ce métier, en somme, qui descend en droite ligne de l'alchimiste et du potard d'autrefois, me laisse dans une indifférence profonde et ne m'enflamme pas du tout. D'ailleurs, je ne vois pas en quoi il pourrait m'enflammer. Je considère cette profession même comme assez bête. » Donc, il n'y a pas que les blanchisseurs qui...
Oui, non, il avait aucune envie d'être pharmacien. Il l'a fait vraiment pour faire plaisir à sa famille, en bon fils de famille, parce qu'il était quand même obéissant et qu'il respectait beaucoup sa mère. Mais par derrière, si je puis dire, il n'a pensé qu'au théâtre. Il ne pensait qu'au théâtre. Le théâtre lui a été révélé pendant ses études, quand il a fait du théâtre pendant ses études dans un des collèges où un des abbés professeurs avait une troupe de théâtre.
Théâtre
et
amateur.
C'est comme ça qu'il a eu envie, qu'il a pensé que le théâtre était pour lui toute sa vie. Enfin, il a été enchaîné au théâtre dès ses 17-18 ans.
Donc, aller contre ce qui a été, dit-il, le refrain de ma jeunesse, c'est-à-dire le théâtre est un métier honteux.
C'est exactement ce que nous avons vu dans la scène avec les blanchisseurs de l'entrée des artistes.
Aujourd'hui, quand je l'entends, cette formule, je retrouve encore dans ce placard à sensations qu'est ma mémoire l'impression physique de toucher au fond des poches de ma culotte les vieux galets polis qui ne me quittaient jamais. J'écoutais la fugue sur la honte en les polissant sournoisement, et le mot et les galets s'égrenaient et s'y lissaient dans une agréable indifférence qui me revient encore au bout des doigts. Je le cite parce que c'est une manière de dire d'emblée que c'est aussi un écrivain, Louis Jouvet.
Jouvet est un de ceux qui, dans l'histoire du théâtre, a produit véritablement une œuvre littéraire autour du théâtre. Il a passé son temps à penser et à écrire le théâtre, à intellectualiser sa passion et la connaissance de son métier, absolument.
Alors dites-nous comment il accède à ce métier, après d'ailleurs des débuts difficiles, puisqu'il échoue 3 fois au conservatoire. Il se revanchera plus tard en devenant professeur éminent dans cette même maison, mais enfin c'est une blessure.
Oui, c'est une blessure. Il a été effectivement recalé 3 fois. Il a été admis quand même en auditeur libre chez un comédien de la Comédie française qui s'appelait Leloir, mais pauvre Leloir, malheureusement, est mort l'année même où il l'avait accepté comme auditeur libre. Mais parallèlement, il avait reçu... il avait été reçu dans un groupe de théâtre semi-amateur, semi-professionnel, qui travaillait dans les universités libres, Faubourg-Saint-Antoine, et il a commencé à jouer en amateur dans ces troupes, dans ce qu'on appelait les universités, vous savez, ouvrières. Il a fait là, pendant un apprentissage, pendant 2 ou 3 ans, tout en suivant des cours de diction auprès de plusieurs comédiens, au Théâtre Montparnasse, etc., de façon à acquérir une connaissance du métier. Mais Jouvet est vraiment un homme qui a peu à peu semé sur lui-même une connaissance du théâtre.
Il a dû d'ailleurs surmonter quelque chose comme une inquiétude sur sa propre apparence physique. C'est un thème intéressant d'ailleurs. Comment un comédien en train de se former fait une sorte de pacte avec son corps qui n'a pas lui-même dessiné. Il est inquiet au début. Il disait « Si je suis parvenu à être comédien, c'est que j'aimais le théâtre plus que ma fierté. »
Il était absolument convaincu de n'avoir finalement aucune silhouette, aucun charisme physique.
Trop de longues jambes, etc.
Il avait l'impression d'être... Il l'a beaucoup dit, il l'a dit encore à Jules Romain dans les années 20. J'ai pas de silhouette, j'ai pas d'allure, j'ai pas de charisme. Il a mis très très longtemps. C'est pour ça qu'il a joué énormément de rôles de composition. Au Vieux Colombier, il ne jouait que des rôles de composition. Que ce soit dans Les Forges Capin, dans les Frères Karamazov, il a toujours joué des rôles de composition, jusqu'à Le Troadec dans les années 20. Et c'est Knock qui lui a permis de jouer à visage découvert.
La grande Béatrix Dussane, qui était une comédienne de la plus haute qualité, du plus haut niveau, et qui en même temps était une conférencière sur le théâtre, écrivait à propos de lui, portrait ambigu, vous allez voir. Grand type, trop grand, la jambe toujours un peu pliée, le bras gêné d'être trop long, le cheveu dru, rabattu en franges agressives sur un regard visionnaire, le visage anguleux, la diction saccadée, gouvernant mal une voix sonore toujours tendue. Donc il lui a fallu énormément de travail sur lui-même pour avancer dans cette direction. Et là, on rencontre celui qui a été son gourou, son père formateur, son père de remplacement, son inspirateur, c'est-à-dire Jacques Copeau, auquel il faut faire un sort dans notre conversation maintenant, Olivier Rony.
Bien entendu. On ne comprend pas Jouvet si on ne connaît pas les années d'apprentissage autour de Copeau, qui a été pour lui une bénédiction. Sans Copeau, il n'y aurait pas Jouvet.
Là encore, hasard et... J'aime bien la réflexion sur les hasards dans les vocations qui se préparent mais ne se dessinent pas forcément. On n'entre pas dans le détail, c'est une question de voisinage, il y a une dame dans la ferme, et peu importe.
C'est-à-dire qu'il se trouve qu'il a rencontré Copeau par l'intermédiaire de celle qui deviendra sa femme et qui était une amie d'Agnès Copeau. Elles étaient toutes les deux danoises. Et c'est comme ça que Copeau a pu rencontrer Jouvet, lui faire passer une audition et le distribuer dans une reprise des Frères Karamazov au Théâtre des Arts. Frères Karamazov, qui était une pièce adaptée par Copeau du roman de Dostoïevski en 1911.
Et pour donner une idée de leur relation, de cette relation spécifique entre eux, de formation essentielle, écoutez donc cette lecture d'une lettre de Copeau à Jouvet, qui remonte au 25 août 1915, on est déjà pendant la guerre, qui est lue ici par ce grand comédien que fut Jean de Sailly. Dans Archives du théâtre en 1960.
Mon cher petit, je sens que tu mûris, que tu deviens tout à fait un homme. Ton élan est bien pris. Nous sommes déjà plus près l'un de l'autre. Mon ambition pour notre œuvre n'a pas de borne. Je voudrais t'emmener faire avec moi un grand voyage, au cours duquel nous prendrions connaissance de tout ce qui concerne notre métier. Mon neveu est là, à côté de moi, qui, chaque soir, quand je fais avec lui ma promenade de 5 heures, me dit « Parle-moi de l'avenir. » Dans quelques années, ce sera un ami, un initié, un collaborateur, un homme de plus qui se sera donné. Comprends-tu? Il ne faut pas du tout accepter les insuffisances que la routine nous impose chez nos collaborateurs. Je ne parle pas seulement du personnel comédien que je prétends renouveler de fond en comble au moyen de mon école, mais du petit personnel, machiniste, accessoiriste, électricien. Il faut là aussi que nous fassions école, qu'un rapport réel s'établisse de nous à eux, qu'il soit dans notre main, et que notre parole entre réellement dans leur cœur, réellement et non fictivement. Tu sais assez que je ne suis pas un utopiste, un rêveur, un crâne bourré de littérature. Je hais cela. Je suis le plus modeste et le plus hardi des hommes. Le cœur, deux mains, un grand courage pour réaliser, peu d'idées, mais une assez vive représentation du possible. Je sais ce qu'on peut faire, et nous le ferons, au prix de notre vie. On ne peut rien contre nous. Nous sommes des géants. Si nous nous foutons de tout, excepté d'aller jusqu'au bout de notre œuvre, de notre marotte, pas de commune mesure avec tous ces bougres qui parlent d'art.
C'est donc la grande chance de Jouvet de se trouver sous l'aile protectrice de Copeau. Il est notable qu'il le tutoie, j'observe, alors oui. Que dans ses réponses, Jouvet naturellement vous soit. C'est un signe symbolique. Copeau était un grand personnage, on le connaît d'autant mieux que on a publié son journal, qui est d'une grande richesse, qui informe beaucoup sur ce milieu, ses relations avec la NRF, avec Gide, avec les Gallimard, etc. Et pour compléter cette archive, je vous propose un bref extrait de l'hommage que Jouvet a rendu lui-même à Copeau après la mort de celui-ci en 1949.
La vie de Jacques Copeau a été un perpétuel hommage rendu au théâtre et à la langue française. J'étais son élève. J'étais son ami. Il a été un apôtre du théâtre. Il n'est pas un auteur ou un comédien aujourd'hui qui ne soit par quelque côté l'héritier de ses efforts, de ses travaux, et ne se trouve être son débiteur. Pour moi, je lui dois la plus précieuse, la plus exaltante, la plus féconde amitié de ma jeunesse. Comme quelques hommes de ma génération, je peux dire que je lui dois tout ce que je suis. Depuis l'époque du Vieux Colombier en 1913, Jacques Copeau a dominé notre activité théâtrale. Il continue et continuera à inspirer le théâtre français.
Bel hommage.
Bel hommage. Et puis, il est évident que quand on s'approche un petit peu de la vie de Jouvet et de celle de Copeau, il y a une osmose entre les deux. Il y a eu une entente tout à fait exceptionnelle. Prélude malheureusement à l'indifférent ensuite, ils se sépareront quelquefois avec beaucoup de peine et de tristesse.
C'est assez classique.
Mais la fusion a été fantastique. Jouvet ne pouvait pas ne pas rendre hommage à Copeau qui lui a vraiment tout appris. Mais en même temps, l'élève a dépassé le maître quelque part. Et ils se sont séparés avec beaucoup d'amertume. Copeau était le père, Jouvet le fils, c'était un fils qui s'est éloigné, qui est parti avec vraiment des sentiments tout à fait de déchirement extraordinaire. Et à un moment, dans un carnet de Jouvet, j'ai l'impression d'avoir atteint ma majorité. C'est tout à fait dans l'esprit de ce rapport qui était très affectif. C'est un père. Vous savez, il l'appelait le patron. Et patron, c'est la même racine que père. C'est donc un père de substitution qui a été Copeau pour Jouvet. Et c'est une des correspondances les plus émouvantes d'hommes de théâtre que j'ai publié il y a quelques années et qui est vraiment présente ce qui arrive si peu dans le monde du théâtre, c'est-à-dire cette association fondée à la fois sur un grand respect mutuel, parce que Copeau admirait Jouvet. Il admirait le travail fantastique que faisait Jouvet au Vieux Colombier comme régisseur.
Mais il a commencé comme régisseur.
Il a commencé comme régisseur. Il a été engagé comme régisseur.
Il a connu tout le fonctionnement du...
Ah oui, c'était un homme de plateau, Jouvet. C'était un homme de plateau. Et c'est ce que Copeau admirait beaucoup chez lui, en plus des dons de comédien fantastiques que Copeau lui reconnaissait. C'est une des amitiés théâtrales parmi les plus exceptionnelles de l'histoire du théâtre, je crois.
Je relève dans le fameux journal d'André Gide, qu'il connaissait bien et qui converse un jour avec Jouvet et qui parle avec lui de Copeau. Nous avons parlé de Copeau interminablement. Il en parle comme d'une épouse qui aurait beaucoup aimé mais qui ne supporte pas l'état conjugal.
C'est admirablement juste. Je veux dire que dans les cahiers de la petite dame, vous savez, l'ami de Gide, il y a toute une évocation de la rupture entre Jouvet et Copeau, et elle a admirablement compris que c'était un couple. Et c'est un couple qui se déchire. Et c'est tout à fait émouvant.
C'est naturellement sur le fond de la Grande Guerre que les choses vont se dégrader, puisque Jouvet est naturellement mobilisé, mais sa santé est déjà un peu incertaine, et il est donc mobilisé comme infirmier. On a toute une correspondance avec Copeau qui est digne d'intérêt, n'est-ce pas, Olivier Rony ?
Elle est très intéressante parce que on a l'évocation des souffrances, de la difficulté d'être infirmier au front, où Jouvet, évidemment, voyait des horreurs. Et Jouvet est obligé d'en parler à Copeau tout en parlant théâtre. C'est une correspondance tout à fait troublante parce que c'est immobilisé. Mobilisé dans les pires conditions, puisqu'il voit tout le temps du sang et des larmes et des blessures, et en même temps il n'arrête pas de parler de théâtre.
Il n'est pas au front en même temps.
Il n'est pas au front. Enfin, il est entre les deux, et il est tout le temps en train de penser à son atmosphère, à son la vie du vieux Colombier qu'il a envie de retrouver, et en même temps de cette guerre qui est abominable et pour laquelle, en tant qu'infirmier, il voit des horreurs.
Il ne finira pas la guerre puisqu'il va être libérer les obligations militaires pour des raisons de santé, c'est d'ailleurs assez discuté. Il faut faire appel à André Tardieu, le collaborateur de Clémenceau, pour obtenir cela. Et Clémenceau lui-même, nous dit-on, il faut toujours citer Clémenceau, Clémenceau lui-même, personnellement, décide que ce grand talent, il doit le pressentir déjà, et Clémenceau adorait le théâtre, mérite d'être protégé, même si Clémenceau a beaucoup fait la chasse aux embusqués.
C'est-à-dire que Copeau a été envoyé aux États-Unis pour créer un théâtre français pour contrer la propagande allemande aux États-Unis, et c'est Clémenceau, effectivement, qui a donné le feu vert pour cette troupe que Copeau va diriger pendant 2 ans.
Tardieu, qui était le collaborateur de Clémenceau, représentait la France en son nom aux États-Unis. C'est pour ça qu'il a pu jouer ce rôle.
Voilà. Et donc, c'est comme ça que Copeau a passé deux années très difficiles aux États-Unis, à New York, pour diriger un théâtre français. Et Jouvet, évidemment, a été un des artisans essentiels de cette aventure du vieux Colombier en Amérique. Et c'est là que les choses se sont d'ailleurs un peu gâtées.
Comment ?
Parce que le vieux Colombier de New York n'est plus le vieux Colombier de Paris. Ce ne sont plus les mêmes comédiens. Copeau est obligé d'adapter son répertoire. Il a un répertoire beaucoup plus contemporain. Il joue du Hervieux, il joue du Bataille, il joue des pièces qu'il n'aurait jamais jouées à Paris. Mais il est obligé, pour s'adapter au public américain, de jouer les auteurs français qui ont du succès à Paris. Et déjà, là, peut-être qu'il y a une espèce de brisure, une rupture entre les choix de Copeau, bien obligé en tant que directeur de troupe, d'alimenter la caisse, le théâtre, enfin, de faire que la troupe tourne et ait du succès, et Jouvet qui, lui, reste encore mobilisé, si je puis dire, sur les vieux principes de théâtre de Shakespeare, de Molière, des grands auteurs du théâtre classique.
Donc c'est après la guerre qu'au retour, une fois démobilisé, que Louis Jouvet connaît pour sa carrière un nouvel élan, et c'est dans le cadre du vieux Colombier, puis de la comédie des Champs-Élysées.
À partir de 1922, il quitte donc Copeau, quitte le vieux Colombier. Appelé par Jacques Héberteau, il prend la direction de la scène des théâtres des Champs-Élysées, c'est-à-dire le Grand Théâtre et la comédie des Champs-Élysées, et il en est d'abord le régisseur, le directeur technique. Et puis, au printemps 23, première mise en scène, il monte le trois decks saisi par la débauche de Jules Romain.
Votre cher Jules Romain, dont vous avez fait, je le disais, une biographie, et nous en avions parlé lors d'une émission précédente.
Et il a son premier succès avec ce rôle de le trois decks, prélude évidemment à 6 mois après. Donc nous sommes en mars 23, grand succès de le trois decks avec Jouvet.
Monsieur le trois decks saisi par la débauche.
Absolument. Et à la suite de ce grand succès, Jules Romain va lui confier Knock en décembre 23. Et là, évidemment, c'est un triomphe qui va décider un peu, en quelque sorte, de la carrière à la fois de Jouvet et de Jules Romain au théâtre.
Moment essentiel, pièce qui a beaucoup compté, 1923, donc on se rappelle l'intrigue.
Il s'agit du docteur Knock, vous savez, qui succède au docteur Parpalais, qui est un médecin de campagne tout à fait modeste et qui va se retrouver lui succéder ce brillant, il est bien doctoralement docteur, le docteur Knock, qui va évidemment prendre une sorte d'emprise, véritablement d'emprise sur la population, et faire ce que vous savez, c'est-à-dire faire de ce petit bourg de Saint-Maurice un des triomphes, le triomphe de la médecine.
Essentiel donc ce moment pour la carrière de Louis Jouvet. Et puis c'est pourquoi je vais vous faire entendre ce que Jules Romain pouvait dire de Jouvet. Ce qui nous fera réfléchir peut-être à la question des relations entre un auteur et un homme de théâtre, chose passionnante. En attendant, écoutons Gabriel Dorzia qui lit ce portrait. C'est un extrait d'une émission qui était un hommage à Louis Jouvet, qui avait été enregistré dans l'amphithéâtre de la Sorbonne le 20 février 1952, peu de temps après la mort de Jouvet.
Jouvet était un homme silencieux. Il n'aimait point discourir ni s'expliquer, que ce fût à une salle de café ou dans le cours du travail. Les observateurs superficiels en étaient portés à conclure qu'il n'agissait guère que par instinct. Jouvet avait certes au plus haut degré l'instinct du théâtre. Et sous la plupart des diverses qualifications spéciales qu'il peut assumer, celles du comédien, du metteur en scène, de l'inventeur d'idées décoratives, du virtuose des éclairages, etc. Mais il avait aussi une intelligence des plus alertes et des plus aiguës. Et si à bon droit il se méfiait de l'intellectualisme desséché, du bavardage abstrait et de toutes les nourritures de carton dont se repaissent les natures pauvres, il ne cessait de soumettre les propositions de son instinct au contrôle de son intelligence. Il se servait de son flair, mais point du tout d'une façon animale. J'ai approché peu d'hommes de théâtre qui aient eu autant d'idées que Jouvet, ou mieux, qui aient donné dans leur travail autant de place à la méditation, à l'interrogation intérieure, aux scrupules réfléchis. Qui se soit demandé autant de fois, ni aussi anxieusement, est-ce que j'ai des raisons suffisantes pour faire ce que je fais ? Est-ce que des esprits plus pénétrés que le mien ne me convaincraient pas d'erreur ? Cette tendance à l'interrogation anxieuse, l'enseignement et l'exemple de Copeau n'avaient pu que le développer. Mais elle était chez Jouvet congénitale. Depuis près de 40 ans que je le connaissais, je ne l'avais jamais vu s'abandonner à la satisfaction de soi, à l'euphorie de la réussite. Sa nature d'homme lui commandait à bien des égards sa nature d'artiste, était marquée de deux traits principaux, l'inquiétude et la pudeur. L'inquiétude allait volontiers jusqu'au tourment, la pudeur en matière de sentiments jusqu'à l'arrêt de l'expression, surtout si la chose à exprimer était à l'égard d'autrui, agréable ou flatteuse.
Olivier Rony, ce portrait vous paraît bienvenu, en particulier l'idée qu'il était mu à la fois par la pudeur et par l'inquiétude. Il me semble qu'on le retrouve bien dans l'expression de ce dualisme.
D'autant que cette inquiétude et que cette pudeur,
l'insatisfaction,
était celle de Jules Romain lui-même. Ça, j'ai été quand même extrêmement surpris quand je suis passé de l'un à l'autre, que je travaille un peu en miroir, Jules Romain étant mes deux centres d'intérêt, je suis absolument fasciné par le côté mimétique des deux dans cette inquiétude et dans cette pudeur. Jules Romain était très pudique, terriblement pudique.
Il y a un peu d'autoportrait, vous pensez?
Ah, vous avez un autoportrait, c'est tout à fait étonnant. Jamais je ne dirais que Jules Romain était un être extrêmement inquiet, qui le cachait avec une pudeur extraordinaire. Et Jouvet, ils sont à ce point de vue-là, Jouvet est admirablement compris par Jules Romain. On sent très bien. Et c'est marrant parce que ce ne sont pas du tout les mêmes rapports. On peut en parler aussi avec Giraudoux.
Alors, j'allais vous y conduire, comment l'avez-vous deviné? Je voulais vous faire parler, Olivier Rony, des relations particulières qui existent chez les grands acteurs avec les grands dramaturges, et en particulier quand ils sont au travail, comment ils sont sur la scène.
Là, vraiment, autant Jules Romain avait beaucoup de mal à transformer, à bouger, enfin à modifier son texte, à quel point il était rigide dans le respect qu'il attendait de son texte, autant Giraudoux était souple. Et représenter, si vous voulez, un autre aspect des rapports de l'écrivain avec son metteur en scène.
Ce moment où, sur la scène, dialogue l'auteur et le metteur en scène, c'est un moment passionnant. Qui accepte que les choses changent, qui se font dans un style, dans un ton qui est défini par l'autre?
Alors, avec Jules Romain, Jouvet s'arrangeait pour que le comédien sur scène, l'interprète de l'œuvre de Jules Romain, respecte à la virgule près le texte. Lui-même, le premier, disait pas un mot différent du texte de Knock que celui qui avait été écrit par Jules Romain. Et c'est ce que Jules Romain aimait chez Jouvet, c'est cette précision et ce respect absolu du texte. Par contre, avec Giraudoux, Jouvet pouvait intervenir dans l'écriture même de certaines répliques, et tous les deux, dans son bureau, après les répétitions, transformer, adapter le texte. Donc, il y avait, si vous voulez, il y a les deux aspects dans le travail de Jouvet. Il y a ce travail avec Giraudoux, très plastique, très pragmatique, et avec Jules Romain, au contraire, on était dans le respect absolu du texte. C'était un autre travail, une autre manière d'envisager le travail de plateau.
Cette souplesse paraît, vue de l'extérieur, plus attirante et plus féconde que ce sentiment de respect absolu d'un texte d'abord écrit dans la solitude par l'auteur. Je vois que Giraudoux écrivait ceci, « Je connais peu d'opérations aussi attirantes que celle du divin habillage qu'est une répétition. La troupe de Jouvet, d'ailleurs, c'est un peu ce personnel maçon du Moyen-Âge qui travaille plusieurs semaines sans arrêt pour élever un monument plus fragile, hélas, que ces cathédrales gothiques elles-mêmes, dont elle sait qu'il durera parfois un seul jour. » Cette temporalité, je la trouve assez fascinante.
Giraudoux était sensible au côté éphémère du théâtre, alors que je crois que Jules Romain, par contre, était très sensible au côté admirablement, comment dire, parfaitement maîtrisé des mises en scène de Jouvet. Il y avait une admiration chez Jules Romain pour le côté impeccable, absolument ciselé du travail de Jouvet. Mais très curieusement, que ce soit Giraudoux ou Jules Romain, le travail aboutissait à quelque chose de parfait, mais les méthodes n'avaient pas été les mêmes pour y arriver.
C'est le lieu peut-être de rappeler le rôle qu'a joué effectivement le théâtre de Giraudoux dans la carrière de Louis Jouvet. On peut dire aussi d'ailleurs réciproquement de très grandes pièces dont il faut citer l'histoire.
La première pièce est évidemment le Siegfried, en 1928.
Tiré du roman qui s'appelait Siegfried et le Limousin, et qui a d'ailleurs ému un certain nombre de gens qui trouvaient qu'on était trop gentil avec le franco-allemand.
Absolument. Lucien Dubec, qui écrivait dans un journal de droite, qui a détesté le Siegfried de Giraudoux, beaucoup trop pro-allemand.
Alors, il y a Siegfried, et puis ensuite...
Après, il y a eu Intermezzo, il y a la guerre de Troie n'aura pas lieu.
Et Ondine.
Et Ondine, surtout, qui a été un triomphe absolu en 39, où, à la veille de la guerre. Jouvet a rempli l'Athénée pendant plusieurs semaines avec un succès absolument fantastique. Puis, évidemment, la pièce posthume qui est
la folle de Chaillot.
La folle de Chaillot.
Mais restons un instant sur la guerre de Troie n'aura pas lieu, car elle exprime une sensibilité à un moment que l'acteur saisit, avec l'auteur aussi, c'est-à-dire l'immédiate avant-guerre.
C'est 35. C'est-à-dire juste le moment où on bascule dans une avant-guerre. Et Giraudoux, qui était diplomate et qui se promenait dans le monde entier, savait très bien que la montée des périls était là. Et c'est une pièce qui, évidemment, 4 ans avant la guerre, annonce qu'elle va avoir lieu.
La guerre de Troie aura lieu, de fait, oui.
Et la guerre de Troie aura lieu, effectivement.
Il y a un autre épisode qui est digne d'intérêt pour éclairer les sensibilités d'une époque. C'est l'affaire du Taciturne, cette œuvre de Roger Martin Dugard qui est mise en scène par Jouvet en 1931. C'est l'histoire d'un industriel qui a une homosexualité refoulée. Et naturellement, ça provoque beaucoup d'émotions dans la sensibilité, notamment de droite, en particulier la fureur et le dégoût de Claudel, qui écrit une lettre véhémente au sujet des exhibitions pédérastiques de l'immonde écrivain dont il ne veut même pas se rappeler le nom. Cet immonde écrivain, ce n'est rien de moins que Roger Martin Dugard. Dans une lettre à Darius Milhaud, il écrit « C'est une pièce encore plus dégoûtante que la première. » La première, c'était Judith de Giraudoux. « En ce qu'elle ajoute le blasphème à la malpropreté. » Ça, c'est du Claudel.
C'est tout à fait du Claudel. Et c'est d'autant plus étonnant, effectivement, que Jouvet allait... Il y avait, à l'époque... un projet de monter l'annonce faite à Marie au théâtre Pigalle.
Mais du coup, ça n'a pas eu lieu.
Ça n'a pas eu lieu du tout, ça a été retiré aussi sec.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Il faut que nous en venions, Olivier Rony, à un dialogue à grande distance, temporelle, mais profondément fécond, qui s'est instauré entre Louis Jouvet et Molière. Molière, c'était pour lui la beauté absolue, le maximum de ce que le théâtre pouvait proposer de grand, et je voudrais vous faire entendre un extrait tout simplement de L'école des femmes. qui est la pièce de toutes les pièces qu'il a peut-être le plus porté avec le plus d'attachement, de passion, de sincérité, de force. Il joue Arnolphe, qui est interprété ici par Dominique Blanchard. On est en 1947, la fameuse scène du ruban.
Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas du raison?
Tout cela n'est parti que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente qui, sans guide, a laissé cette bonté de mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs.
Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble, un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit?
Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites, et comme le jeune homme a passé ses visites.
Hélas! Si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous.
Oui, mais que faisait-il, étant seul, avec vous?
Il jurait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde, et me disait des mots les plus gentils du monde. Des choses que jamais rien ne peut égaler et dont, toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille. Et là-dedans remue certains je ne sais quoi, dont je suis tout émue.
Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses?
Autant! Il me prenait les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là.
Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Ouf!
Et... il m'a...
quoi?
Pris.
Hé eh?
Le...
qu'est-il?
Je n'ose et vous vous fâcherez peut-être contre moi.
Non.
Si fait!
Mon Dieu, non!
Jurez donc votre foi.
Ma foi, soit!
Il m'a pris... vous serez en colère.
Non!
Si!
Non, 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 non! Diantre, que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris?
Il...
je souffre en damné.
Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre.
Passe pour le ruban.
On ne se lasse pas d'admirer et de rire, Olivier Rony.
Cette scène de l'école des femmes, Jouvet l'a rêvé toute sa vie. Il a commencé à travailler sur l'école des femmes dans les années 20. Et il a travaillé sur Don Juan pendant la guerre. Déjà, dans sa correspondance avec Copeau, il a lu et relu Molière dans les tranchées.
Don Juan, il l'a joué assez tard, il avait 60 ans.
Il l'a joué en 47. Mais l'école des femmes, il l'a rêvé pendant des années. Et on a des projets, le département des arts du spectacle de l'ABN conserve des projets de décors. Vous savez, ce fameux décor avec le décor de la maison qui s'ouvre, le jardin qui s'ouvre et qui se ferme.
Département des arts du spectacle est un lieu magnifique.
Absolument.
Un lieu très précieux.
Que j'ai beaucoup fréquenté, aussi bien pour Jules Romain que pour Jouvet.
La BNF.
C'est admirable, c'est un admirable département. Et donc, il y a tous les projets de l'école des femmes avec ce fameux décor qui va être ensuite habillé par Christian Bérard. Jouvet a vraiment pensé, vécu dans l'école des femmes pendant des années, des années 20, puisqu'il a même pensé en 23 le monter avec Ludmila Pitoev. Ça ne s'est pas fait et il a attendu d'avoir Madeleine Auzeray dans sa troupe pour monter l'école des femmes en 36. Et donc Jean, il l'a rêvé pendant 20 ans et il l'a monté en 47 après avoir médité longuement, très longuement, sur cette pièce. Non, c'était un passionné de Molière. Il a monté également les Faubourgs de Scapin chez Barreau. Et il n'a cessé de monter du Molière. Et quelques mois avant sa mort, il était en train de préparer l'Avare.
Un lien s'impose entre cet amour pour Molière et cette nouvelle activité qui est celle de Jouvet, c'est-à-dire professeur au conservatoire. C'est une sorte de revanche, puisqu'il n'avait pas été admis dans sa jeunesse
oui.
dans cette prestigieuse institution.
Alors, il est professeur à partir de 1934, et on a la chance de posséder les dactylogrammes de ses cours.
Ah oui.
Et on a édité deux volumes chez Gallimard sur les cours de Jouvet, l'un sur Molière et la comédie classique, et c'est là que nous avons toutes les scènes travaillées par ses élèves, notamment celles sur Don Juan, sur Elvire, qui sont remarquables d'analyses faites par Jouvet lui-même face à cette comédienne, cette élève comédienne qui joue Elvire, et on en a fait même un spectacle, puisqu'il y a eu une Elvire Jouvet qui a été montée il y a quelques années et qui a eu un grand succès, où on voit l'acteur qui joue Jouvet et la comédienne répéter Don Juan, et avec cette espèce de fascination que Jouvet éprouvait pour Molière, et surtout pour Jouvet. Elvire est un personnage tragique et c'est un personnage religieux, totalement habité par la religion, notamment quand Elvire revient au dernier acte pour prier Don Juan de s'amender. J'engage les lecteurs fidèles ou les auditeurs fidèles à lire ce texte de Jouvet sur Elvire dans le Don Juan, tel que Jouvet le fait travailler à une élève du conservatoire. Et ces textes sont tout à fait exceptionnels.
Ces élèves sont d'ailleurs gardes de cet enseignement, généralement un souvenir ébloui, avec le sentiment d'avoir parfois un peu souffert, ou beaucoup souffert, mais d'en être sorti plus grand. Je vois que l'une d'entre elles, Wanda Kerien, écrivait « Il nous obligeait à travailler des scènes que nous n'aimions pas, qui ne nous flattaient pas, qui souvent n'étaient pas ce que nous imaginions être notre emploi, entre guillemets. À celui qui n'avait pas de mouvement, il faisait travailler une scène de virtuosité. À celui qui ne savait pas marcher, il proposait une mise en scène dans laquelle l'élève était obligé de se déplacer afin d'acquérir l'aisance. À celui qui manquait de tripes, entre guillemets, il distribuait une scène de passion, etc., etc. » Jean Meyer, qui était un grand aussi comédien de l'époque, dira autrement, « Nous le craignions comme la foudre, et pourtant, il nous donnait des ailes. »
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on était à la fois fascinés, inquiets. Il transmettait cette inquiétude aux élèves qu'il avait sous sa férule.
Et on le trouve, ce personnage, dans l'entrée des artistes, dont nous avons fait entendre un extrait tout à l'heure en ouvrant notre conversation. Tout un autre pan de l'activité de Jouvet mérite également d'être considéré. D'abord un mot de la radio, puisque c'est le moment où Georges Mandel, ministre des PTT, contribue à ce qu'il y ait des accords entre les théâtres et la radiodiffusion toute jeune. Et Jouvet se plie volontiers à cette demande. Et son œuvre est radiodiffusée, d'où une plus grande audience pour lui, une encore plus grande notoriété.
Et je crois que même dans les années juste avant la guerre, il y a un accord entre le théâtre du cartel, vous savez, c'est-à-dire la troupe Batty, Pitoef, Dulin et lui-même ont investi la radio pour faire des émissions autour du cartel et du répertoire qui était le leur.
Et puis il y a naturellement le cinéma qui lui porte en effet la notoriété et la gloire de Jouvet très haut. Il a toujours affirmé une hiérarchie, à vrai dire, très nette entre le cinéma et le théâtre. Il disait « Je passe ma vie dans les studios ». C'est intéressant pour l'échec, mais c'est un travail tellement moins intéressant que celui du théâtre. Dans votre livre que vous lui consacrez, Olivier Rony, vous citez à bon escient ce propos.
Il avait un sentiment tout à fait mélangé à l'égard du cinéma. Effectivement, il s'est bien rendu compte que c'était un éveilleur de notoriété énorme, puisque en quelques diffusions d'un film, il pouvait être connu dans la France entière, alors qu'au théâtre, évidemment, c'était quand même un public assez restreint. Il s'est bien rendu compte de l'énorme effet d'amplification de la notoriété. En plus, il est tout à fait conscient que ça rapporte de l'argent, que cet argent, il peut le mettre au théâtre, et que, bien entendu, mais en même temps, c'était du théâtre en conserve. Il méprisait un peu le cinéma, en fait. Il a mis très longtemps à trouver le cinéma intéressant.
Je sens que mes auditrices et mes auditeurs m'en voudraient beaucoup si je ne donnais pas l'extrait du film Drôle de drame de Carnet, 1937. La fameuse scène du dîner de l'évêque de Bedford s'opère avec son cousin Molineux, qui est interprété ici par Michel Simon, c'est bien connu. Il faut rappeler peut-être brièvement quelle est l'intrigue.
L'intrigue, c'est qu'il s'agit d'un évêque qui vient faire une conférence à Londres et qui est invité chez son cousin Molineux. Mais il se trouve que Madame Molineux a perdu sa cuisinière et que c'est elle-même qui fait le repas. Donc elle n'apparaît pas pendant le repas et tous les deux sont seuls à table et le repas est servi par l'assistante de Molineux et du coup ils se retrouvent seuls tous les deux autour de la table.
C'est une sarabande un peu folle à vrai dire, drôle de drame, mais le moment central est celui-ci puisque l'évêque s'interroge sur l'absence de Madame Molineux.
Vous direz ce que vous voudrez mon cher cousin, il est fort regrettable que Margaret ne soit pas là. Oh, le canard, l'admirable canard aux oranges. Une aile. Et puis, une cuisse. Et où est-elle exactement, cette chère Margaret?
Elle est à la campagne.
Au loin?
Non, pas très loin d'ici. Chez des amis.
Et des amis?
Des amis que nous connaissons.
Yeah. Et il y a longtemps que cette jeune personne est à votre service?
Eh ben, oh, mais certainement, cher cousin, elle est ici depuis 15 ans.
Ouais.
Ah, non, je confondais avec la cuisinière.
Ah, Madame Petit, oui. Mais dites-moi, cher cousin, vous ne trouvez pas étrange que votre femme ait précisément choisi le jour où je viens dîner pour s'en aller en voyage?
Elle a dû partir brusquement pour un cas de rougeole. Et vous comprenez, un cas subit.
La rougeole? Je croyais que vous m'aviez dit qu'elle était partie chez des amis.
Mais justement, chez des amis qui ont la rougeole.
Oh!
Oui, certainement. Oui.
Et où demeurent-ils exactement, ces amis qui ont la rougeole?
Ah oui, où ils demeurent exactement. Hmm. Vous me demandez, cher cousin, où ils demeurent exactement. Ben, c'est bien simple, ils demeurent exactement dans les environs de Brighton, je crois.
Vous croyez, cher cousin? Bizarre, bizarre.
Qu'est-ce qu'il a?
Qui?
Votre couteau.
Comment?
Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre, alors je croyais que...
Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi ai-je dit bizarre, bizarre?
Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre.
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Immortel dialogue, n'est-ce pas, Olivier Rony?
Absolument. Les paroles de Jacques Prévert, qui travaillait beaucoup avec Carnet à cette époque-là, Jouvet a dû se délecter, à mon avis, à dire ces textes, d'autant qu'il n'aimait pas jouer avec Michel Simon. Ils avaient eu des différends entre eux au moment de Jean de la Lune.
Il y a eu un troc, d'ailleurs, un troc de rôle, non?
Oui. Il y a eu un truc de rôle, il devait jouer le rôle de Molineux, et c'était Michel Simon qui devait jouer l'évêque.
Ma peine à l'imaginer.
Et il me semble que l'échange a été fructueux.
Alors avançons dans la vie de Louis Jouvet, auquel nous consacrons Olivier Rony cette émission, et transportons-le dans les Amériques, au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est un moment fondamental dans cette destinée.
Oui, parce que Jouvet était saisi d'interdiction. On lui interdisait de jouer Jules Romain et Giraudoux.
Donc, Giraudoux avait été commissaire d'un des derniers responsables de l'information de la Troisième République avant la chute du régime en juillet 40.
Et Jules Romain était président du Pen Club et devenu très très anti-fasciste et il était pour l'entrée en guerre contre l'Allemagne. Donc il était très très mal vu. Il n'était pas question de jouer Jules Romain et Giraudoux à Paris dans les années 40.
Romain exilé d'ailleurs aux États-Unis.
Et Romain venait de partir aux États-Unis en juillet 40. Donc Jouvet tournait en rond, s'ennuyait comme un rat mort, et il voulait absolument continuer à travailler, à faire travailler sa troupe. Je dois dire que là, Jouvet a été quand même assez exceptionnel, il voulait faire travailler ses comédiens. Il se trouvait que c'était absolument son rôle de chef de troupe de continuer à travailler. Il s'est donc arrangé pour faire d'abord une tournée en Suisse et en zone libre, en 40-41, puis il a réussi à mettre sur pied une tournée en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine et en Uruguay. Une première tournée qui a été mise en route, évidemment avec l'aval du gouvernement de Vichy.
C'est tout à fait passionnant de voir comment progressivement, pendant cette tournée qui connaît notamment au Chili ou à Cuba des moments de passion et d'admiration remarquables. À l'époque, la France avait vraiment encore une place dans l'affection de ces bourgeoisies, ces populations en Amérique latine, qui étaient capables d'écouter en français des pièces de toutes sortes. Nous avons à disposition les archives de la diplomatie qui ont été rassemblées, fort bien présentées récemment dans un livre consacré à l'année 1943 par Isabelle Richefort et Jean Mendelssohn. C'est le moment où les choses basculent. On voit les diplomates hésiter entre Vichy et la France libre et au fond, Louis Jouvet se trouve à cet endroit-là. Comme le théâtre l'emporte sur tout le reste, en somme... Il n'en a pas souffert rétrospectivement d'un excessif discrédit, puisqu'il a rejoint, en somme, l'esprit de la France libre. On le voit très bien dans cette documentation diplomatique.
Absolument. C'est-à-dire qu'il est parti avec l'autorisation et les fonds de Vichy. Ça, il n'y a pas de doute. Il est à côté, au départ, en 41, quand il part en Amérique. C'est une tournée qui a reçu l'autorisation du gouvernement de Vichy et de la direction des affaires culturelles françaises. Quand il est en Amérique... dans ces pays d'Amérique du Sud, il ne dit pas un mot, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Il n'y a pas une ou deux interviews qui ont été un peu discutées, où il envoie un peu Pétain et De Gaulle
un peu dos à dos.
C'était pas un homme politique de premier rang.
Non. Il avait la tête d'un homme de théâtre. Il voulait absolument représenter la France et ses écrivains. Et il a même un peu gourmandé quelquefois ses comédiens s'il leur disait surtout, vous ne dites rien, nous sommes là pour représenter Claudel, Jules Romain et Molière. Mais en fait, les choses changent à partir du moment où il n'a plus de subvention de Vichy, c'est-à-dire en 42, voire 43, l'année dont vous parliez. À partir de 43, il travaille sur ses propres subsides. Avec l'aide de son ami Marcel Carcinti, il arrive là à avoir des subventions, des aides des théâtres et des gouvernements de l'époque, mais il n'est plus le représentant plus ou moins autorisé de Vichy. Il n'est plus il est son propre chef, et évidemment, il est de mieux en mieux reçu par les gaullistes, en particulier au Mexique, en 43.
Il faut dire qu'il a parcouru 67 000 kilomètres, il est allé avec sa troupe dans 12 pays, il a donné 376 représentations, et on compte 700 000 spectateurs parmi ceux qui l'ont applaudi.
Mais ça a été une aventure extraordinaire, ça a été vraiment une épopée, la tournée de jeu. Il a perdu ses décors, il a eu un incendie, il y a un camion qui est tombé dans un ravin, il a perdu des comédiens, il a perdu son meilleur ami qui était Romain Bouquet, qu'il connaissait depuis le Vieux Colombier, depuis 1913.
Un autre rejoint la France pour être dans la résistance.
Absolument, il a perdu donc quelquefois des comédiens, au dernier moment, il a fallu les remplacer par des comédiens amateurs. C'est comme ça qu'il a fait jouer le père de Simone Signoret. Et le lieutenant Caminquer, qui est donc le nom réel de Simone Signoret, il a joué un des petits rôles de l'École des femmes. Donc Jouvet faisait vraiment feu de tout bois pour arriver à monter ses spectacles, même dans des conditions très difficiles en Amérique.
Et ça se termine de façon magnifique avec les applaudissements de toute une foule qui, à travers Jouvet, salue la résurrection de la France démocratique. À un moment donné, il y a une histoire de Marseillaise inattendue qui tire des larmes des yeux de tous ces comédiens.
À la fin d'une représentation, je ne sais plus si c'est au Chili, je ne sais plus si c'est au Chili ou ailleurs, pendant la tournée en Amérique du Sud, je crois que c'est au Chili, le rideau se baisse sur une des représentations qui s'était passée dans une atmosphère relativement froide, et le rideau se baisse, et Jouvet peu à peu entend dans la salle monter la Marseillaise. Ce qui le met dans un état d'émotion extraordinaire. Et il dit à ses comédiens, ce que c'est con. Il ne pouvait pas retenir ses larmes et son émotion. C'est vrai que d'entendre la Marseillaise à plusieurs milliers de kilomètres de la France, ça devait effectivement beaucoup, beaucoup l'émouvoir.
Retour en France, et nous allons évoquer ces dernières années, c'est-à-dire entre 1945 et sa mort vraiment prématurée en 1951. Il avait forcé vraiment les choses sur son corps, il avait abusé de tout ce qui pouvait être l'activité, il fumait beaucoup, etc. Mais il revient avec une gloire intacte, puisque le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, lui propose d'être administrateur de la Comédie française. Ce qu'il refuse, c'est une chose intéressante.
Oui, il refuse parce qu'il voulait garder son indépendance. Et surtout, avoir la main sur sa troupe. C'était un chef de troupe, c'était pas un administrateur, Jouvet. Donc l'idée d'avoir affaire à une tutelle, c'est-à-dire le ministère de direction des affaires culturelles de l'époque, devait l'agacer au plus haut point. Et surtout, je pense qu'il devait s'inquiéter aussi beaucoup des querelles entre comédiens qu'il pouvait y avoir au sein de la Comédie française.
Les dernières années, donc jusqu'à sa mort en 1951, sont celles d'une reconnaissance assez générale, mais il peut du même coup, il continue à travailler avec une assiduité extrême pour mettre en scène des pièces qui ont encore beaucoup de succès, notamment Molière, Tartuffe. Et il joue un Tartuffe très intéressant, qui est beaucoup plus complexe que la manière dont souvent on l'interprète.
Il pensait que Tartuffe était sincère. C'est sa grande innovation.
Audacieux.
Ouais, très audacieux. Et il pensait que on lui faisait un mauvais procès. Il prétendait, il y a une note tout à fait intéressante de sa collaboratrice Marthe Herlin, qui était sa directrice de scène et qui lisait pour lui beaucoup de documentation, et qui avait relu la pièce très attentivement en disant qu'au fond, il n'y a jamais quoi que ce soit à dire contre Tartuffe à l'égard d'Elmire. Il est véritablement amoureux d'Elmire. Pour Jouvet, à travers cette lecture, on lui fait un mauvais procès à Tartuffe.
Bien, il faut pour finir notre émission consacrée au grand Louis Jouvet, Olivier Rony, que vous nous disiez pourquoi son nom reste si présent, pourquoi sa personnalité reste si proche de l'attention des uns et des autres, et en quoi il peut toujours inspirer l'art de la scène.
Je crois qu'on peut dire que le fait que Jouvet ait été aussi un écrivain, compte énormément. Son livre, Le comédien désincarné, ainsi que ses deux ouvrages tirés de ses cours au conservatoire, continuent d'alimenter formidablement la formation des jeunes comédiens. Et ça, c'est très important. Et puis, je pense qu'il y a le cinéma. Bien entendu, par rapport, par exemple, à des gens comme Pitoëf ou Dulin, qui, Dieu sait, sur le plan du théâtre, ont compté au moins autant que lui, ils n'ont jamais eu la carrière cinématographique de Jouvet. Il n'y a pas de semaine où, sur les chaînes du câble, passe un film de Jouvet. Entrée des artistes, drôle de drame, passe régulièrement et entretiennent régulièrement la vision que nous avons de Jouvet, qui reste un comédien moderne et contemporain.
Ça, c'est le cinéma, mais il y a aussi peut-être une marque qui reste forte, l'art même de la scène.
Alors, ce que Jouvet a apporté à l'art de la scène, je crois que c'est le fait de montrer que le comédien est d'abord et essentiellement une voix. C'est-à-dire la diction, le fait de dire un texte plus que de l'interpréter, donne au travail de Jouvet un caractère, je dirais, intemporel. C'est-à-dire qu'il rejoint par cela les comédiens actuels. Et il peut, de ce point de vue-là, permettre à des gens comme Fabrice Lucchini, par exemple, de rester tout à fait un contemporain de Jouvet.
Très bien, mais nous l'abandonnons dans cette intemporalité, ce qui est un beau compliment. Votre biographie consacrée à Louis Jouvet, sous ce titre, a été publiée, c'est un inédit, dans la collection Folio chez Gallimard en 2021. Je rappelle aussi votre ouvrage beaucoup plus ancien, de 1993, sur Jules Romain, qui avait fondé une conversation antérieure que nous avions eue sur ce grand écrivain, peut-être injustement repoussé dans le passé. Je voudrais aussi rendre hommage à l'éditrice Claire Poland, qui a un grand mérite d'éditer des œuvres qui concernent notamment le théâtre et la littérature, qui aurait peine sinon à trouver le moyen d'être publiée. Et elle a donné le journal de Jacques Copeau, 1900-1948, en deux tomes. C'est un texte qui a été établi et introduit par Claude Sicard, republié en 1999. Je mentionnerai aussi le beau salut à Louis Jouvet qu'a publié Olivier Barrault avec aussi Raymond Chira aux éditions du Rocher en 2002. Et puis j'ai cité ce livre par le comité des travaux historiques et scientifiques du Quai d'Orsay. En 1943, Isabelle Richefort et Jean Mendelssohn, l'année du choix pour les diplomates. Vous aurez une bibliographie plus complète à disposition sur notre site, vous le savez, et les références des documents sonores que nous avons proposés. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, mes collaborateurs chaque semaine si précieux, à qui je dois tant, avec Laurent César à la prise de son, Célian Guillemard à la discothèque et Hervé Evano pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.